comes down to keep your head high.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du jeudi 17 novembre 2016. Au sommaire ce soir.
République démocratique du Congo, le président Kabila nomme un député de l'opposition au poste de Premier ministre. Le choix de Sami Badibanga répond aux vœux de l'accord issu du dialogue national.
Conférence des donateurs sur la République centrafricaine. Le président Faustin Archange Touadéra a obtenu plus que ce qu'il demandait sur 5 ans pour le relèvement de son pays.
Tunisie, l'instance Vérité et Dignité se prépare à entendre pendant 2 jours les victimes des exactions commises de l'indépendance à 2013.
États-Unis, Donald Trump accueille le premier ministre japonais Shinzo Abe.
Les sports et l'économie. Ce sera juste après le journal. La République démocratique du Congo a un nouveau Premier ministre. Le président Joseph Kabila a nommé le député de l'opposition Sami Badibanga, président du premier groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale. Sa nomination intervient dans le cadre d'un accord politique signé en octobre entre la majorité et une frange minoritaire de l'opposition. Les signataires avaient convenu du report des élections à une date indéterminée et de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale dirigé par un Premier ministre issu de l'opposition. Le portrait de Sami Badibanga avec Eric Ambago.
Sami Badibanga est un homme politique congolais né en 1962 à Kinshasa au Congo. Député national depuis 2011 à l'Assemblée du Parlement de la République démocratique du Congo, il siège à la Commission des ressources naturelles. Sami Badibanga est membre d'honneur depuis 1994 de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il rencontre les politiciens Étienne Tshisekedi et Frédéric Kibasa dans sa jeunesse à Kinshasa. De 2009 à 2011, il est le conseiller spécial d'Étienne Tshisekedi, malgré les instructions du leader de l'UDPS. 42 élus du parti, dont Sami Badibanga, sont allés siéger au Parlement, considérant leur élection comme crédible. Conscients de la polémique suscitée au sein même de leur parti, les 42 élus continuent aujourd'hui encore d'animer l'opposition parlementaire au régime de Joseph Kabila. Notant paradoxalement que Sami Badibanga reçoit toujours le soutien dans son action d'opposition parlementaire de Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi.
À Bruxelles, les pays donateurs ont mis la main à la poche pour aider la Centrafrique à se relever de la guerre civile. La conférence vient de se terminer. On fait le point avec Magloire Déballé-Colisso, un entrepreneur centrafricain en Belgique.
Oui, elle a été plus que honoreuse. C'est vrai que la demande du gouvernement centrafricain était de 3,5 milliards US dollars. Là, actuellement, nous obtenons sur, en fin de compte, 3 ans au lieu de 5 ans initialement, 1,5 milliard sur 3 ans. Et si on veut dépriser un peu, je pourrais dire que sur les 3 ans, il y a 100 millions d'euros qui est donné par la France. Nous avons la Norvège qui donne 2,5 millions de dollars. Nous avons Bruxelles, l'Union européenne, qui donne 470 millions d'euros sur 3 ans, voire sur 5 ans. Nous avons pas mal de pays donateurs qui sont donc au chevet. L'Allemagne va donner à peu près 35 millions donc, d'euros également. La liste est longue, mais ce que je peux vous dire, que la récolte a été bonne. Et franchement, tout le monde veut aider le pays à se relever et à aller de l'avant.
Magloire Déballé-Colisso, un entrepreneur centrafricain en Belgique.
Les résultats de la présidentielle gabonaise, de nouveau remis en cause, un pré-rapport rédigé sous l'égide de l'Union africaine, juge invraisemblable les procès-verbaux des bureaux de vote dans le Haut-Ogooué. Ali Bongo a obtenu 95% des voix pour 99% de participation dans cette province. Lors du scrutin à un tour du 31 août dernier, sa réélection est toujours contestée par son rival Jean Ping.
Au Tchad, la séance d'examen de la motion de censure a été annulée faute de quorum de députés présents à l'Assemblée. La motion avait été déposée par l'opposition, mais les élus de la majorité ne sont pas venus à la séance. Selon le règlement intérieur, une autre séance doit être programmée dans les 72 heures.
Violence entre jeunes et forces de l'ordre à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Des jeunes ont attaqué un commissariat et des combats ont duré plusieurs heures la nuit passée. Les jeunes ont placé des pneus et des troncs d'arbres pour couper l'accès au commissariat avant de donner l'assaut et empêcher de se faire tout renfort, a ajouté une source sécuritaire. Les affrontements ont éclaté au lendemain de la mort d'un homme de 22 ans après son arrestation. Il aurait sauté du camion de police qui roulait et se serait ainsi blessé.
L'épidémie de fièvre de la vallée du Rift continue de faire des victimes au Niger. Le gouvernement compte au moins 32 morts sur 230 cas. La maladie sévit depuis fin août dans la région de Tawa, dans l'ouest du pays.
En Tunisie, premières audiences publiques ce jeudi de l'instance Vérité et Dignité. Elle est chargée de faire la lumière sur les violations des droits humains survenues dans le pays depuis son indépendance à 2013. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Les Tunisiens plongent dans un passé douloureux avec l'ouverture, en direct à la télévision, des auditions publiques des victimes. Pendant 2 jours, une dizaine d'hommes et de femmes vont raconter les exactions qu'ils ont subies sous le régime du président Habib Bourguiba, père de l'indépendance, et pendant le règne du président déchu Zine El Abidine Ben Ali. Pendant toutes ces années, il y a eu différentes crises, dont les émeutes de janvier 1984, contre une hausse du prix du pain qui avait fait au moins 70 morts, ainsi que la répression sous Ben Ali des manifestations liées au printemps arabe et qui aurait fait 338 morts. L'instance Vérité et Dignité est chargée de faire la lumière sur les multiples violations des droits de l'homme. Depuis sa mise sur pied en 2013, elle a enregistré plus de 62 000 plaintes. Elle a pour mission d'enquêter et déterminer, si nécessaire, des réparations pour les victimes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, Donald Trump doit recevoir ce soir le Premier ministre japonais Shinzo Abe, premier dirigeant étranger à le rencontrer depuis son élection ce jeudi à New York, où il poursuit ses consultations en vue de former la prochaine administration. Nani Taleni.
C'est un honneur pour moi de rencontrer le président élu Trump avant les autres dirigeants du monde. L'alliance entre le Japon et les États-Unis est la pierre angulaire de la diplomatie et de la sécurité du Japon, a déclaré Shinzo Abe. Pendant sa campagne, le candidat républicain avait dit qu'il envisageait le retrait des soldats américains du sud de la péninsule coréenne et de l'archipel nippon à défaut d'une hausse significative de la contribution financière des deux pays. Donald Trump, qui poursuit ses consultations pour former son équipe, devait aussi s'entretenir avec l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger, âgé de 93 ans. En attendant la formation de la nouvelle administration, les spéculations vont bon train. Donald Trump a déjà nommé ses deux plus proches collaborateurs, le futur secrétaire général de la Maison-Blanche, Reince Priebus, et un haut conseiller en charge de la stratégie, Steve Bannon, le patron du site d'extrême droite Breitbart. Les démocrates ont déjà demandé sa démission.
Le président américain Barack Obama a mis l'accent sur l'unité et la coopération, promettant aux Allemands et à tous les Européens que les États-Unis ne feront pas machine arrière dans leurs relations avec leurs partenaires. Monsieur Obama est en Allemagne dans le cadre de sa dernière visite à l'étranger en tant que chef d'État. Dans un éditorial publié conjointement avec la chancelière allemande Angela Merkel, le président américain a déclaré qu'on ne reviendra pas à la période pré-mondialisation. Les valeurs de démocratie, justice et liberté représentent le fondement de nos économies réussies et nous devons approfondir notre coopération, a-t-il ajouté, cherchant à rassurer les alliés avant l'arrivée de Donald Trump au timon des affaires le 20 janvier.
La Russie a frappé des positions de groupes djihadistes en Syrie à l'aide de missiles de croisière tirés à partir de bombardiers ayant décollé de son territoire. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'armée russe. Ces frappes ont détruit, selon l'armée russe, des centres de commandement, des dépôts d'armes et de munitions, des ateliers de fabrication d'armes et du matériel militaire appartenant aux groupes djihadistes. L'armée russe n'a pas précisé dans quelle région de la Syrie les cibles avaient été frappées.
Le patron des services de renseignement américain, James Clapper, a démissionné de son poste, mais il va liquider les affaires courantes jusqu'au départ du président Barack Obama. J'ai soumis ma lettre de démission hier soir et je me suis senti très bien. Il ne me reste que 64 jours, a dit le directeur du renseignement à l'échelle nationale lors d'une déposition aujourd'hui au Congrès. James Clapper a été un fonctionnaire de l'État fédéral pendant plus de 60 ans. Il occupait son dernier poste depuis août 2010.
Le chef de la Banque centrale américaine affirme que l'amélioration de l'économie du pays pourrait se traduire bientôt en une augmentation des taux d'intérêt. S'adressant à un comité du Congrès ce jeudi, la présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen, a déclaré que toute hausse des taux d'intérêt devrait être progressive. De nombreux économistes disent qu'une augmentation des taux pourrait intervenir lors de la prochaine réunion de la Fed à la mi-décembre. Ce serait un an après que la Banque centrale lui a approuvé une augmentation d'un quart de point de son taux de référence, la seule augmentation depuis la grande récession de 2008-2009.
Encore des défections possibles à la CPI après la décision de la Russie de quitter la Cour pénale internationale. Un retrait des Philippines pourrait suivre. Le président Rodrigo Duterte a menacé de quitter la CPI un jour après que Vladimir Poutine a signé un décret sur le retrait de son pays de l'organe juridique international. Dixit Buterte, la CPI s'en prend seulement aux petits pays comme le sien.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on enchaîne sur la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar a un nouveau directeur général. Mohamed Moussa, ex-ministre nigérien, dispose d'un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. La région sous son contrôle enregistre en moyenne 480 000 mouvements d'avions par an. L'OPEP tient demain à Doha une réunion informelle et consultative. Selon le ministre de l'Énergie du Qatar, Mohamed Saleh Al-Sada, plus d'une dizaine de membres y prendront part. Objectif, ramener sa production entre 32,5 et 33 millions de barils par jour, mais aussi parvenir à un accord avec d'autres grands producteurs, notamment la Russie, pour relancer des cours déprimés par une surabondance d'offres depuis l'été 2014. Enfin, la réunion annuelle de l'Organisation de coopération économique Asie-Pacifique, APEC, démarre aujourd'hui au Pérou. Le sujet phare, l'impact sur le commerce mondial de l'élection de Donald Trump, qui veut rompre avec le libre-échange. Ce forum, qui rassemble 21 États, représente près de 60% de l'économie mondiale et 40% de la population de la planète.
Et l'on passe maintenant à la page sport avec Nicolas Pinos. Salut Nicolas.
Bonsoir chérubin.
Parlons pour commencer de la quatrième étape du Tour cycliste du Rwanda.
Ah oui, l'étape entre Rusizi et Huye, longue de 140 km, a été réglée au sprint par le Rwandais Joseph Areruya devant son compatriote Joseph Biziramie. Au classement général, pas de changement, le Rwandais Valence Ndayisenga reste leader avec 1 minute 16 secondes d'avance sur Joseph Areruya.
Suite de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Les Ghanéennes accrochent les Françaises, 2-2, et décrochent leur premier point dans cette compétition. Le Ghana qui occupe la dernière place du groupe C, à suivre les Nigérianes qui joueront dimanche contre l'Espagne, leader du groupe B.
Football toujours avec la Bolivie qui proteste, Nicolas.
Oui, la Bolivie a fait appel de la sanction de 2 défaites sur tapis vert, infligée par la FIFA pour avoir aligné un joueur inéligible lors de 2 matchs des qualifications pour le Mondial 2018. Cette sanction a coûté 4 points à la Bolivie qui s'était imposée 2-0 face au Pérou et avait fait match nul 0-0 avec le Chili.
Dans le tennis Masters de Londres, le sourire de Djokovic pourrait-on dire.
En expédiant le Belge David Goffin 6-1, 6-2 ce jeudi, le Serbe termine invaincu la phase des poules du Masters de Londres et met la pression sur Andy Murray qui doit encore se qualifier pour les demi-finales. Avec cette troisième victoire en 3 matchs, le numéro 2 mondial qui était déjà assuré de rejoindre le dernier carré du Masters reprend virtuellement la tête du classement ATP. Il terminera l'année à la première place. Si Andy Murray échoue à sortir de son groupe, on suivra ça demain.
Et l'on termine en basket NBA, le championnat nord-américain.
Les Clippers de Los Angeles se sont inclinés à domicile face à Memphis, 111-107. De son côté, le champion titre Cleveland s'est incliné dans la salle d'Indiana, 93-103, en l'absence de sa star LeBron James, laissé au repos. Kevin Love et Kyrie Irving ont pourtant marqué respectivement 27 et 24 points. Toujours à l'ouest, Golden State a signé sa cinquième victoire de suite à Toronto, 127-121, grâce à 30 points chacun de Stephen Curry et Kevin Durant.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériac et Chérubin Gaby Dorcy, en votre compagnie, place au dossier du jour. Et la première escale ce soir, c'est Kinshasa.
En République démocratique du Congo, conformément aux conclusions du dialogue national, le président Joseph Kabila a choisi le député Sami Badibanga comme premier ministre. L'UDPS d'Étienne Tshisekedi et le Rassemblement, une coalition de l'opposition, se disent non concernés. Mais la majorité se réjouit du choix du président Joseph Kabila. Un dossier d'Eddie Isango.
La famille politique de l'opposant historique Étienne Tshisekedi considère que cette nomination est un non-événement. C'est ce que déclare le secrétaire général du parti, Jean-Marc Kabund.
Pour nous, à l'UDPS et au Rassemblement, c'est un non-événement. M. Kabila est encore dans ses prérogatives constitutionnelles et même de nommer qu'il veut comme Premier ministre. La nomination d'un Premier ministre, Kabila peut le faire, mais notre préoccupation se focalise sur le 19 décembre. Qu'est-ce que nous allons faire le 20 décembre alors que Kabila aura fini son deuxième et dernier mandat? Il peut nommer comme il veut, mais ce n'est pas ça la solution à la crise que lui-même Kabila a créée dans ce pays.
La majorité se réjouit que les premiers ministres nommés viennent de l'UDPS, argument que bat en brèche le MLC de Jean-Pierre Bemba, écoutant F. Bazaïba, son secrétaire général.
Non, il n'est même plus le président du groupe parlementaire de l'UDPS. Il avait été déjà destitué depuis longtemps par les membres du groupe parlementaire de l'UDPS et alliés qui l'ont fait remplacer par M. Mouton. Et puis, lorsqu'ils sont allés aux élections pour remplacer le deuxième vice-président de l'UDPS décédé, M. Kombo Kissi, il a postulé aussi comme candidat. Il a été battu copieusement. Il n'a même pas pu aller au deuxième tour, Sami Badibanga. Et c'est Rémi Massa qui est élu deuxième vice-président de l'Assemblée. Donc, c'est quelqu'un qui constitue pratiquement le résidu de son groupe qu'on a pu lisser au niveau de la primature. Mais bon, je ne suis pas de l'UDPS, je ne suis pas du Rassemblement, mais j'ai dit que connaissant l'UDPS et le Rassemblement, ça n'a même pas déstabilisé ces regroupements-là. Et pas, ça aussi, ce n'est pas un enjeu. C'est une stratégie politique de détourner l'attention de l'opinion pour qu'on parle gouvernement, primature, etc. Alors que nous sommes là pour parler fin du mandat du président Kabila le 19 décembre 2016.
La majorité qui n'a pas eu le temps de nous accorder une interview à cause des réunions qui se succèdent depuis cette nomination soutient que le gouvernement qui sera mis sur pied regroupera toutes les tendances politiques du pays.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Tchad, le gouvernement d'Albert Paimi Padaké a échappé à la motion de censure introduite contre lui par les députés de l'opposition ce jeudi matin à l'Assemblée nationale. Les députés de la majorité présidentielle ont brillé par leur absence à l'hémicycle. André Komadjingar nous en dit plus.
Il était 10h, heure locale, ce jeudi 17 novembre 2016, quand le président de l'Assemblée nationale donne l'autorisation au secrétaire de séance de passer à l'appel nominal des députés tout en sachant que la salle est à moitié vide. Après cet appel, Haroun Kabadi renvoie la séance en ces termes.
L'appel nominal de mesdames et messieurs les députés donne le résultat suivant. Présent 44. Excusez 21, absent 110. Le quorum n'étant pas atteint, l'Assemblée nationale ne peut valablement délibérer. La séance est levée.
Cette absence notoire est le résultat d'un travail de sous-marin fait à la veille. Des consignes fermes ont été données aux députés de la majorité présidentielle de boycotter cette séance. Ali Kouloutou Chaimi, président du groupe parlementaire MPS, félicite ses collègues d'avoir respecté le mot d'ordre.
Un gouvernement qui a une majorité à l'Assemblée, sauf que la majorité est complice, sinon on ne peut pas défaire. Avant cette motion de censure, il y avait eu une interpellation. Nous avons dit qu'on vient de sortir des élections, on n'a même pas 3 mois. Le délai est court, nous avons dit non, il faut repousser l'interpellation. Ce qui a été refusé par l'opposition, et nous aussi, c'était un exercice normal de refuser de donner son gouvernement à une minorité. Tant que nous ne sommes pas d'accord, personne ne peut nous imposer quelque chose.
Le député Madetengue Belengar, initiateur de cette motion, déplore ce comportement et n'entend pas baisser les bras.
Par des comportements donjanesques, notre Assemblée nationale a montré aux yeux du monde qu'il a atteint le summum de la déresponsabilisation. Moi, en tant que député qui ai initié cette motion de censure avec 22 autres collègues pour que nous puissions échanger humblement des questions brûlantes de l'heure qui concernent notre économie, qui concernent l'éducation de nos enfants, qui concernent notre sécurité. Et toutes ces informations, le Premier ministre, il était là pour nous répondre. Malheureusement, que les députés qui doivent être là dans la salle pour échanger et affirmer leur couleur à travers les urnes, ils ont esquivé. Ils n'ont pas fait de leur propre gré, mais ils n'ont pas pu arracher leur liberté et ils ont subi. On nous a toujours dit que la démocratie, c'est la loi de la majorité. Mais aujourd'hui, on vient de nous confirmer que la démocratie, c'est la loi de la minorité. C'est une deuxième victoire et c'est la victoire du peuple tchadien qui veut être informé. Mais le combat ne fait que commencer.
Le président de l'Assemblée nationale convoque séance tenante une conférence des présidents des groupes parlementaires ce jeudi dans l'après-midi pour la suite à donner à cette motion. André Kodouma Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le gouvernement camerounais demande aux taxis d'être conformes avant la CAN féminine. Les chauffeurs avaient été exhortés à réparer et repeindre leurs taxis. Aujourd'hui, ils se ruent auprès des réparateurs et tauliers pour une dernière séance de réfection de leurs taxis. Ceci afin de se conformer aux exigences du gouvernement avant le début de la compétition samedi. Reportage de Moki Edwin Kinzeka.
Les chauffeurs de dernière minute se ruent dans les garages automobiles pour se mettre en conformité avec la requête du gouvernement qui les a sommés de faire peau neuve avant la CAN féminine qui commence ce samedi 19 novembre 2016. André Fouda est tolier à Milen, une localité située dans la capitale Yaoundé. Il explique que les chauffeurs se dépêchent dans ces locaux pour faire remplacer la peinture, voire la carrosserie de leur voiture pour être prêts avant les jours J.
On ne parvient même plus à recevoir tous les clients parce qu'ils sont aussi nombreux. Souvent, on travaille jusqu'à 18h, des fois 19h même. Ils refont la peinture jaune, ils refont les sièges et d'autres écrivent même partout là, CAN 2016, par-ci, par-là.
Par ailleurs, ces chauffeurs n'ont pas seulement reçu pour instruction de changer l'aspect esthétique. Ils sont également appelés à revoir leurs attitudes qui ne sont pas toujours les plus appréciés, notamment le non-respect du code général de la route, l'absence de professionnalisme, mais aussi la mauvaise tenue vestimentaire des chauffeurs et le manque de courtoisie de ces derniers. Cependant, d'autres chauffeurs donnent l'impression de ne pas se sentir concernés par ce qui leur a été demandé et boudent le vœu du gouvernement qui est celui de voir circuler des taxis propres et conformes pendant cette fête sportive. Certains usagers décrivent cette attitude.
Moi, je suis constaté que rien n'est fait pour le moment. Ils attendent la dernière minute. Le Camerounais aime bien s'attendre la dernière minute.
Ce matin, j'ai emprunté un taxi, ouvrir la portière de la voiture. On est obligé de tirer une corde. Ce taxi était tellement vieux que si tu ne faisais pas attention, tu pouvais attraper du tétanos.
Les chauffeurs de taxi avaient été instruits de se mettre en condition avant la date butoir du 30 septembre 2016. Une date qui n'a pas été respectée par ces acteurs du secteur. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Cap sur le Togo, où s'est tenu du 14 au 16 novembre un atelier de vulgarisation du nouveau statut général de la fonction publique togolaise. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une campagne pour permettre aux fonctionnaires de maîtriser ce texte. Reportage à Lomé de notre correspondante Kayi Lawson.
Le Togo veut aller vers une meilleure gestion de son administration publique. Pour ce faire, le pays a adopté en 2013 un nouveau statut général de la fonction publique, mais il faudra attendre décembre 2015 pour que les tests d'application soient prêts, pour pouvoir disposer d'une administration moderne qui répond aux normes contemporaines. Le nouveau statut de la fonction publique a opté pour diverses innovations. Atissim Assi, le secrétaire général du ministère de la fonction publique, revient sur trois innovations majeures.
Nous allons vers deux types de personnel, c'est-à-dire les fonctionnaires d'une part et les contractuels de la fonction publique. Ça, c'est l'une des innovations pour mieux gérer le personnel et maîtriser également l'effectif et la masse salariale. L'autre aspect de l'innovation, instaurer une obligation de disponibilité des agents au poste, donc l'assiduité au travail et surtout de servir l'agent public et de mieux aussi assurer la qualité de la prestation de service. Et la révision de la grille salariale qui constitue également un début et qui permettra aussi d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents.
Ce nouveau statut de la fonction publique fait l'objet d'une campagne de vulgarisation auprès des fonctionnaires et autres agents publics. Aounon Komlan Mensan, directeur général de la fonction publique.
Le Togo a opté pour une fonction publique de carrière. Maintenant, le nouveau statut vient coupler ce modèle de carrière au modèle d'emploi. Donc, ça change un peu les donnes et il faut que nous internalisons les nouvelles dispositions, que chacun puisse se l'approprier en vue de mieux l'appliquer.
La vulgarisation de ce document qui fonde les principes de base de la fonction publique au Togo est plus qu'indispensable. Eloi Komlan Nwosan, secrétaire général de l'Union nationale des syndicats indépendants du Togo, une cite.
Il faut que chaque fonctionnaire de l'État puisse savoir ce qu'il y a dans ce texte. Puisque c'est ce document qui organise la fonction publique. Il y a les avantages qui sont là, il y a les sanctions qui sont là. Donc si vous ne connaissez pas le contenu, vous risquez en un moment donné de tomber sous le coup de sanctions parce que vous aurez fauté.
L'une des plus grandes innovations de ce nouveau statut est le relèvement de l'âge plafond d'entrée à la fonction publique qui passe de 35 à 40 ans. Une disposition pleine d'espoir, à en croire ces Togolais.
Je suis d'avis que le gouvernement repousse le plafond d'âge au concours à 40 ans au lieu de 35 ans, d'autant plus que les concours sont un peu rares dans ces dernières années. C'est une bonne chose à mon avis.
Les 5 ans qui ont été ajoutés est une marge de sécurité pour tout citoyen togolais, pour qu'il puisse avoir accès au moins au travail, à la fonction publique.
Il est ajouté que l'e-gouvernement fait partie des projets qu'exécute le gouvernement togolais pour moderniser son administration, notamment dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Yeah, yeah.
C'est un
clin d'œil spécial à tous nos auditeurs à Abidjan et un peu partout en Côte d'Ivoire.
Everybody
C'est la fin de cette édition. On remercie Fridner Kayumit qui a dirigé la mise en onde ce soir avec l'assistance de Nick Ivanov à la console. Présentation Morgane Guériaké, Chérubin, Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à tous nos auditeurs. Merci également à nos plus de 2 millions de fans sur Facebook. Continuez à nous envoyer vos commentaires et questions pour nos émissions interactives. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.